Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série tellement importante. C'est la deuxième série puisqu'elle nous est demandée. Nous arrivons au numéro 16 et le titre sera « Comment développer une vie d'engagement total ?» Comment développer une vie d'engagement total. Qu'est-ce que la moisson? Au sens spirituel, c'est la dernière grande récolte des âmes de toutes les nations à travers le monde pour le royaume de Dieu à la fin des temps. C'est le résultat de beaucoup de travail, de beaucoup de semences, de labeurs, de sacrifices et de planification. Mais en fin de compte, la moisson ne peut arriver que si Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison qui est l'effusion du Saint-Esprit. C'est vrai également dans le domaine spirituel. La moisson est le but principal vers lequel toutes les activités de Dieu tendent. Jésus-Christ lui-même, il l'a dit dans une affirmation simple, mais tellement importante que vous trouvez dans Saint Matthieu, au chapitre 13, verset 39. En expliquant la parabole de l'ivraie, il déclare « La moisson, c'est la fin du monde ». Il est très important de nous rappeler cela. La moisson, c'est la fin des temps. Ces temps vont vers leur apogée, et cet apogée, c'est la moisson. Pratiquement tous les événements et les processus qui se sont déroulés dans l'Église durant plus de 2000 ans tendent vers ce but, la moisson. Beaucoup d'événements doivent avoir lieu avant qu'on puisse engendrer la moisson. J'aimerais en mentionner un en particulier qui se trouve dans Jacques, chapitre 5, versets 7 et 8. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le labeur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière, c'est-à-dire l'arrière-saison. Vous aussi, prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Remarquez que le laboureur ne récolte pas tant qu'il n'a pas reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tout cela est en relation directe avec le retour du Seigneur. C'est dans cette période de restauration de toutes choses que nous pouvons nous attendre au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais tout d'abord, il doit y avoir la moisson qui doit être concomitante au retour du Seigneur. Les deux choses, elles sont intimement liées. À la fin de la moisson, le Seigneur viendra et Jacques nous dit que nous devons être patients. La Bible nous enseigne que la pluie est pour la moisson. J'aimerais souligner cela car c'est un principe très important qui est une constante de la parole de Dieu. La pluie, elle est toujours donnée pour la moisson. Nous savons à partir de beaucoup de passages de l'Écriture sainte que les pluies de la première et de l'arrière-saison sont des images bibliques de l'effusion du Saint-Esprit. L'Église a été instaurée par une grande effusion du Saint-Esprit, et il en sera de même à la fin des temps. Si nous ne réalisons pas que l'effusion du Saint-Esprit est donnée dans le but de la moisson, nous passerons à côté des desseins de Dieu. Pour mieux comprendre le plan de Dieu pour la restauration de toutes choses, regardons dans le livre de Joël. Joël est le plus grand, ou si vous voulez, le grand prophète qui nous parle de l'effusion du Saint-Esprit que nous expérimentons, on peut bien le dire, dans ces derniers temps. Donc, je ne voudrais pas qu'on comprenne mal. Je ne voulais pas dire que Joël est le plus grand des prophètes, mais Joël est le grand prophète qui, lui, nous a parlé de l'effusion du Saint-Esprit que nous expérimentons dans ces derniers temps. Alors, les trois chapitres du livre de Joël se déroulent très simplement autour du thème qui pourrait se résumer en trois mots correspondant à ces chapitres suivants. Premièrement, la désolation. Deuxièmement, la restauration. Et troisièmement, le jugement. Le premier chapitre de Joël est une image de désolation dans tous les domaines de l'héritage, oui, on peut bien dire de l'héritage du peuple de Dieu. Le chapitre 2 contient la promesse de grâce de restauration au verset 25 du premier chapitre de Joël. Je vous restituerai les années qu'ont dévorées la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Le chapitre 3 est l'avertissement du jugement sur ceux qui refusent carrément la restauration. Si nous nous centrons d'abord sur la désolation et la restauration décrites dans les chapitres 1 et 2, nous trouvons deux arbres symboliques très présents dans l'imagerie de Joël qui sont des types ou des images du peuple de Dieu. Le premier arbre, c'est le figuier. Le figuier représente Israël. C'est le peuple de Dieu par descendance naturelle de Abraham. L'autre est la vigne. La vigne, c'est l'Église, le peuple de Dieu issu d'une naissance spirituelle, né de nouveau, né de l'Esprit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, le figuier et la vigne, donc Israël et l'Église, se trouvent tous les deux dans la désolation décrite au chapitre 1, verset 12. La vigne est épuisée, le figuier est desséché, tous les arbres des champs sont secs, la gaieté est tarie pour tous les hommes. À cause de l'invasion des sauterelles et des sécheresses terribles, il ne peut y avoir de moisson et donc pas d'offrande au Seigneur, pas de blé, pas de vin, ni d'huile. Les champs sont saccagés. Le sol est dans le deuil, car les blés sont ravagés. Le vin nouveau est épuisé. L'huile est desséchée. Les laboureurs sont donc épuisés. Les vignerons se lamentent au sujet du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs elle est totalement perdue. Mais au deuxième chapitre de Joël, nous trouvons toute la promesse de restauration à la fois pour le figuier et pour la vigne, c'est-à-dire l'Église et Israël. Nous trouvons cela représenté par un symbolisme prophétique comme une promesse de pluie qui commence au verset 23. Il est dit « Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre l'averse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps. Au premier mois, les airs se rempliront de grains et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des miracles pour vous, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Quelle est la solution de Dieu? Elle commence par la pluie de la première saison, la première grande effusion de pluie qui tombe sur Israël. En général, cette pluie tombe en novembre, à la fin de la saison sèche, et annonce le commencement de la saison d'hiver. Elle est partout abondante et impressionnante. Elle a pour but de rendre le sol qui a été bien brûlé, meublé. Meublé pour que les agriculteurs puissent commencer les différents travaux qui vont les conduire jusqu'à la moisson de l'année suivante. Après cela, durant les mois froids de l'hiver novembre, décembre, janvier et février, la pluie continue de tomber, mais elle tombe de façon imprévisible, sporadique, en petites ondées ça et là. Il n'y aura plus de chute de pluie importante jusqu'à la fin de la saison hivernale. Dans Joël, chapitre 2, verset 23, le verset cité nous dit « au premier mois ». Souvenez-vous que quand Israël est sorti d'Égypte pendant la première Pâque, ce mois est devenu le premier mois de l'année. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Exode chapitre 12, versets 1 et 2. La Pâque juive coïncide plus ou moins avec la Pâque chrétienne. Ainsi, à la fin de l'hiver, c'est le premier mois, le mois d'avril en Israël. Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison. Elle marque la fin de la saison d'hiver et le commencement de la saison sèche. Ce sont les chutes de pluie les plus importantes, les plus abondantes et les plus uniformes de toute l'année en Israël. Dans l'économie de Dieu, elles ont pour but de faire germer les semences qui ont été semées. Après cela, les événements se succèdent rapidement dans le processus de récolte de la moisson. Encore une fois, nous voyons un principe qui se retrouve dans toute la Bible. La pluie est toujours donnée pour la moisson. Nous devons comprendre comment la pluie tombe en Israël parce que l'action du Saint-Esprit dans l'Église, elle est totalement similaire à la façon dont la pluie tombe en Israël. Dans Deutéronome, chapitre 11, verset 10 et les suivants, nous trouvons une promesse de Dieu faite à son peuple. Il lui promet que s'il lui obéit en marchant selon sa sainte parole, il lui enverra la pluie afin qu'il puisse engendrer la moisson, ou plutôt engranger la moisson, mettre la moisson dans les nombreuses granges. Car voyez-vous, le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, ce pays n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais ta semence en l'arrosant à l'aide de ton pied comme un jardin potager. Le pays dans lequel vous passez pour en prendre possession, c'est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel, ton Dieu, prend soin et sur lequel l'Éternel, ton Dieu, a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour lui rendre un culte de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et même ton huile. Deutéronome, chapitre 11, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Remarquez que cette pluie, elle est vraiment un don de Dieu. La Bible souligne que cette pluie est sous le contrôle souverain du Seigneur. Appliquons maintenant, chers amis, cette image prophétique au modèle de l'histoire de l'Église. Les temps de l'Église commencent à la Pentecôte avec la première pluie, celle du printemps. Ce fut la première grande effusion spectaculaire du Saint-Esprit. Je crois que la plupart des théologiens et des historiens sont d'accord avec cela. Quand on lui pose des questions sur l'effusion qui a lieu, l'apôtre Pierre cite immédiatement la prophétie de Joël en disant « Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16 à 18. Mais vous remarquerez que l'apôtre Pierre se projette dans la fin des temps en annonçant ce que le Seigneur fera alors. Il est dit « Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 19 à 21. Chers amis, nous voyons donc que l'apôtre Pierre a projeté cette prophétie jusqu'à la fin des temps. C'est important de savoir cela. On peut trouver cela étrange, parce que c'était il y a plus de 2000 ans, et ces temps ne sont pas encore révolus. Mais ce n'est pas du tout étonnant, parce que l'apôtre Pierre, il citait Joël. Et Joël explique que l'Esprit viendra sur l'Église par deux effusions majeures. La première pluie au début de l'Église et celle de l'arrière-saison à la fin des temps de l'Église, ce qui correspond bien au climat d'Israël. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la pluie de l'arrière-saison, la dernière effusion universelle du Saint-Esprit sur toute la race humaine. Et je crois que nous vivons dans ces temps-là. Si cette pluie n'avait pas été donnée, la moisson ne pourrait pas se faire. Nous pouvons nous demander ce que est la moisson. C'est le grand rassemblement des âmes dans le royaume de Dieu. Gardez cela à l'esprit, parce que c'est une réponse qui mène à la question que nous allons traiter maintenant. Et la voici. Comment, chers amis, puis-je devenir efficace par l'effusion de l'Esprit Saint dans ma vie? La réponse, elle est tout simplement en m'associant au dessein de Dieu. Il y a donc deux sortes de personnes qui ont le baptême du Saint-Esprit, et cela a toujours été ainsi. Il y a celles qui ont compris les raisons de l'effusion et celles qui ne les ont pas compris. Alors écoutez bien, celles qui ne les ont pas très bien compris, ils sont tout de même remplis de l'Esprit, et ils le gardent pour eux-mêmes. Elles deviennent souvent des clubs qui disent « Seigneur, bénis-moi, moi qui suis un super spirituel, bénis-moi ». Elles se rencontrent, se prophétisent les unes aux autres, s'imposent les mains et ont des visions et des révélations. Et puis, elles terminent en disant « Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. » C'était bon d'être ensemble. On se revoit la semaine prochaine. Et 2 ans plus tard, elles en sont toujours au même point. Elles sont toujours les mêmes. Elles n'ont pas compris le dessein de Dieu. Alors j'aimerais vraiment souligner cette pensée. La pluie, elle est donnée pour la récolte. Elle n'est pas donnée pour faire de vous un être super spirituel, super intelligent, qui a fait l'université et qui a fait toute la théologie, ou qui pense que de ce fait, elle sera particulièrement bénie. La pluie du Saint-Esprit, elle est donnée pour faire de vous un ouvrier, une servante efficace dans la moisson de Dieu. Du reste, j'en reviens toujours au fondateur de l'armée du salut. Il n'a pas dit « Asseyez-vous sur les bancs et continuez d'être assis sur ces bancs jusqu'à la fin de votre vie ». Je ne veux pas dire que c'est faux. Attention. Mais il y a plus que cela. La pluie n'est pas donnée pour toi-même, tout seul, égoïstement. La pluie, elle est donnée pour la moisson. Il y a des gens qui n'ont pas forcément plus d'éducation qui n'ont pas forcément assisté à plus de séminaires d'enseignement, mais qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, même s'ils ont fait que 4 ans d'école primaire et qu'ils bouleversent ainsi le monde. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont réalisé que la puissance de l'Esprit-Saint leur a été donnée pour la moisson, c'est-à-dire le rassemblement des âmes. La pluie de l'Esprit n'est pas donnée pour faire de nous des êtres super spirituels. Elle est donnée pour rassembler la moisson. Tout au long de la Bible, il est emphatiquement question de la moisson. Si nous regardons les différentes fêtes de la loi mosaïque et de l'Alliance, nous voyons que chacune d'entre elles correspond à un événement de l'ère chrétienne. La Pâque juive, par exemple, coïncide avec la Pâque chrétienne. La fête des moissons avec la Pentecôte, etc. Et je crois fermement que ces liens s'appliquent à la moisson et que la moisson aura son accomplissement. Il y aura une période spécifique dans l'histoire de l'Église qui sera celle de la moisson. Je crois qu'elle est directement liée à la pluie de l'arrière-saison. Cependant, je crois qu'elle est aussi liée à un autre trait marquant des jours dans lesquels nous vivons. L'explosion démographique. Selon moi, la population de la Terre va doubler tous les 60 ans à partir de maintenant. Il y a plus de 6 milliards d'habitants sur la Terre déjà maintenant, et dans peu de temps, il y aura 8 à 9 milliards d'habitants et plus. Qu'ils aient raison ou pas, les experts nous avertissent qu'il n'y aura pas assez de nourriture, ni assez de terre pour tout ce monde. Je n'ai aucun doute du fait que Dieu sait depuis le début qu'il y aurait une explosion démographique. Et je crois qu'il y a une raison à cela. Voici un peu mon idée. Voyez-vous, si le programme de Joël est mené à bien, si l'Église est débarrassée de sa duplicité et de son immaturité, si l'Église est de nouveau remplie du Saint-Esprit, qu'elle connaît une onction et une puissance divine, si elle sort de son coin et de son sectarisme et se libère de ses barrières pour redevenir une, oui, pour redevenir une en Jésus-Christ, alors là, elle peut avancer dans le monde d'aujourd'hui dans la puissance du Saint-Esprit. Et si elle avance dans la puissance, l'Église pourrait voir plus d'âmes sauvées dans le monde en quelques années que dans toutes les années depuis le temps de Jésus-Christ. Ça, c'est la moisson, et elle est juste devant nous, devant toi. La pluie de l'arrière-saison nous est donnée pour la moisson. Dieu a déjà commencé à mettre sa main sur les gens en disant « Prépare-toi maintenant, libère-toi, sépare-toi, parce que quand la moisson va venir, cela va aller tellement vite qu'il faudra que tu sois prêt à prendre la faucille pour moissonner. » En 1948, ou si vous voulez, entre 1948 et 1949, le mouvement « Pluie de l'arrière-saison » a émergé au Canada. Et entre parenthèses, c'était un réel mouvement de Dieu. À cette époque, une jeune fille toute simple de la ville d'Edmonton ou de Calgary, elle a eu une vision de ses derniers jours de réveil et elle a vu la dernière moisson. Et dans sa vision, elle a vu la foudre faire rapidement le tour de la terre et tout était ensuite terminé. C'est ainsi que cela va se passer. Ce sera aussi rapide, en quelque sorte, que la foudre. Dans le livre de Jérémie, nous voyons Jérémie qui reprend le peuple d'Israël parce que celui-ci n'avait pas conscience de ce que Dieu faisait. Ils étaient centrés uniquement sur eux-mêmes et de leurs problèmes charnels. Ils étaient aveugles et sourds à ce que Dieu faisait et ce que Dieu disait. Il dit du reste ceci, « Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils se retirent et s'en vont de Dieu. À quoi le voit-on? Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie de son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. » Jérémie chapitre 5, versets 23 et 24. Si vous êtes agriculteur ou si vous travaillez la terre, vous savez que le moment le plus chargé et le plus critique est celui de la moisson, c'est-à-dire celui où tout le monde est mobilisé. Dieu avertit sans cesse son peuple. Elle arrivera vite. Elle arrivera très vite. Il y a eu un long processus de maturation et de préparation. Mais voyez-vous, quand la moisson sera là, mes amis, si vous n'êtes pas prêts, vous ne saurez même pas qu'elle a eu lieu. Ce sera aussi rapide que cela. Regardons encore une fois Jérémie, chapitre 5, versets 23 et 24, qui nous montre comment le peuple de Dieu est passé à côté de la signification de la pluie que Dieu avait prévue pour la moisson. Mais ce peuple a un cœur rétif et rebelle. Ils se retirent et ils s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Donc, il est important, très important, que nous reconnaissions qu'il est terrible de rejeter ce que Dieu fait quand il donne la pluie. Les ministères, les groupes et les églises qui ne voient pas ce que Dieu fait, qui rejettent ce mouvement de l'Esprit Saint, ont un cœur rétif et rebelle, c'est pas moi qui le dis. Ils se retirent et ils s'en vont. Je ne dis pas cela pour attaquer qui que ce soit, jamais, et je ne cherche pas non plus à plaire à certains. Je vais vous dire ce que je crois. J'espère que je ne me trompe pas. Je crois que nous sommes en train de voir actuellement la dernière offre de grâce de Dieu, de Yahvé l'Éternel. Si les chrétiens ne répondent pas à Dieu, il n'y aura rien d'autre que la désolation et le jugement pour cette nation. Je crois que c'est la vie ou la mort, mes chers amis. Et c'est pourquoi je ne transige pas quand j'en parle, car je crois ce que peut être la vie, Je crois que Dieu nous a aimés et qu'il nous a mis à part pour une destinée particulière. Mais je tremble en pensant à ce qui arrivera si, dans les prochaines années, nous n'acceptons pas la visitation divine du Saint-Esprit. Savez-vous comment le communisme athée est arrivé en Russie? Mais tout simplement parce qu'il y a eu une visitation du Saint-Esprit dans les années 1870 et 1880 que les chrétiens russes ont carrément rejeté. Quand ils ont rejeté le Saint-Esprit, eh bien, ils ont créé un vide spirituel qui a automatiquement été rempli par l'espoir le plus puissant au monde après le Saint-Esprit. C'est qui? C'est lequel cet espoir tellement puissant? Eh bien, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Oui, l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre partout dans nos campus et nos lycées, nos églises et nos séminaires. Il y aura un moment terrible quand nous devrons décider qui nous allons servir, de Christ ou de l'Antéchrist. Il n'y a pas de troisième choix, jamais. Israël en était à ce stade il y a environ 20 siècles. Lequel des deux voulez-vous que je relâche? A demandé Pilate. Jésus ou Barabbas? Saint Matthieu chapitre 27, verset 21. Israël n'a pas eu d'autre choix. Insensés qu'ils étaient, ils ont dit « Pas cet homme, Jésus. Non, 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 mais Barabbas. » Ils ont choisi Barabbas, même si c'était un agitateur, un homme violent et un contestataire patenté. Avez-vous déjà considéré les deux réponses du peuple juif? Premièrement, ils ont dit « Pas cet homme, non, non, mais Barabbas, oui. » Saint Luc, chapitre 23, verset 18. Et puis, Pilate leur a dit « Que ferai-je de votre roi Jésus ?» Ils répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Saint Jean, chapitre 19, verset 15. Ils ont carrément refusé Jésus comme roi. Il n'y a pas si longtemps, tout un peuple, en levant le bras, a adoré leur César, Hitler. Si vous lisez 20 siècles d'histoire juive, que constatez-vous? César et Barabbas ont dirigé le peuple juif. Ils ont eu ce qu'ils avaient choisi. Et quand Dieu nous dit de choisir, il faut choisir. Et vous obtenez ce que vous avez choisi. Combien de Césars, combien d'empereurs, combien de rois, combien de dictateurs ont persécuté et opprimé la nation juive en 20 siècles? Combien de fois ces Césars ont pris Barabbas, ce contestataire patenté, cet homme violent, cet agitateur, pour qu'il se retourne contre les Juifs. Connaissez-vous l'histoire juive? C'est toujours la même histoire. Le dernier exemple horrible est celui d'Adolf Hitler et des troupes d'assaut nazies. Connaissez-vous la philosophie d'Hitler? Elle est basée sur une philosophie à vous glacer le dos d'un homme nommé Spengler qui disait ceci: nous avons besoin d'un nouveau César, c'est Hitler. En arrivant à ce stade de ma présentation, et franchement, je n'avais pas prévu d'arriver à un tel point de réflexion, je suis saisi par la crainte solennelle de ce choix. Car il y a 20 siècles, Israël a fait un choix comme Dieu le leur demandait. Ils ont eu ce qu'ils ont choisi jusque dans les moindres détails. Aujourd'hui, c'est à nous de faire un choix. Lequel des deux? Jésus ou Barabbas? Notre pays est rempli de violence, d'émeutes, de haine, de conflits. Il est mûr pour Barabbas. Mais vous avez le choix. Vous avez un choix à faire. C'est l'heure du choix de Dieu. C'est l'heure de la visitation de Dieu. Ce n'est pas un petit jeu anodin. C'est la mort ou la vie. Je crois que ce peut être la vie. Et je crois que Dieu veut absolument envoyer le plus grand réveil dans l'histoire. Je ne suis pas arrivé à cette idée simplement par hasard. J'ai prié pour cela, je l'ai médité et j'ai cherché Dieu. Je suis convaincu que je dis la vérité de la part de Dieu Tout-Puissant. Je ne suis pas normalement quelqu'un de téméraire ou trop sûr de moi, mais j'ai la grande conviction intérieure que je vous donne un message de la part de Dieu. Je ne ferai pas de compromis sur la vérité divine parce que je devrais répondre un jour devant Dieu pour ce que j'ai dit. Il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où Dieu dit aux hommes et aux femmes de choisir. Dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, Moïse dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Oui, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Savez-vous la pensée qui m'a saisi? L'idée que Dieu laisse l'homme choisir. Dieu a mis devant nous ce simple choix. Vous pouvez avoir la vie et la bénédiction ou vous pouvez avoir la mort et la malédiction. Moïse a dit, choisis la vie. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai choisi la vie et j'ai choisi la bénédiction. Je suis absolument convaincu que j'aurai ce que j'ai choisi, tout comme Israël a eu ce qu'il avait choisi quand il a fait le mauvais choix. Presque une génération plus tard, Josué a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Josué, chapitre 24, verset 15. Remarquez que le choix ne comportait pas de si. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent choisir de servir Dieu ou le diable, ou simplement choisir de se faire plaisir à eux-mêmes. Vous n'avez pas ce choix. Non, non, non. Le choix se fait entre servir Dieu ou le diable. Ça, c'est aussi simple que ça. Si vous me dites, frère, je ne sais pas qui je sers, alors c'est que vous servez le diable. Ceux qui servent Dieu, eux, ils marchent dans la lumière et ils savent qui ils servent. Élie est apparu en Israël quelques générations plus tard et il a dit, si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. 1 roi, chapitre 18, verset 21. Chers amis, qui allez-vous servir? Je crois que le temps est venu pour les chrétiens de se décider. Vous dites peut-être ma dénomination ne m'enseigne pas cela, ou mon église ne prêche pas cela. Alors construisez-vous vraiment votre foi sur un fondement aussi léger? Que demande Dieu? Il demande que nous nous rallions à lui. Il nous demande de nous engager envers lui sans réserve pour faire sa volonté, pour le servir, pour croire et prêcher sa sainte parole. Dieu vous veut sans réserve, libre de tout lien. Il vous veut pour exécuter ses desseins. C'est l'unique condition pour faire partie de cette dernière grande action de Dieu. Nous n'avons pas besoin de compliquer les choses. C'est très simple. Voici la condition, et c'est la seule. Vous pouvez choisir. Vous devez avoir un engagement complet, sans réserve, envers le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce qui nous est demandé. Tout le reste en découlera. Je n'attaque aucune dénomination ni aucune partie de l'Église. Ce n'est pas le propos. La question est : quelle place a Jésus-Christ dans votre vie ? L'Église a un Seigneur, c'est Jésus-Christ. L'Église a un chef, c'est Jésus-Christ. Et ce n'est pas des personnalités surimportantes qui sont adulées et où il y a des centaines de millions qui adorent un homme et parfois aussi quelques saintes, sainte telle et telle. Laissez-moi vous dire la décision que j'ai prise. Pour ma part, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ, esprit, âme et corps, pour ce temps et pour l'éternité. Jésus m'a racheté par son sang en mourant sur la croix, et je me suis donné à lui. Pouvez-vous en dire autant ? Si vous ne le pouvez pas, voulez-vous prendre cette décision maintenant? Ce n'est pas une question d'avoir un compte en banque suffisant. On peut avoir un tout petit compte en banque, mais être sauvé pour servir, pour servir. Voyez-vous, ce n'est pas le compte en banque qui va être, disons, crucial. Pas du tout. Qui va décider? Pas du tout. Revoyons Jérémie chapitre 8, verset 20. La moisson, elle est passée, l'été est terminé, et nous ne sommes pas sauvés. Quand la moisson est passée et que l'été est terminé, il n'y a plus de salut, alors la porte est fermée. Avez-vous entendu cela? Qu'en est-il de vous? Pourquoi vivez-vous? Que signifie la vie pour vous? L'apôtre Paul disait, « Pour moi, Christ est ma vie. » Philippiens chapitre 1, verset 21. Jésus-Christ est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que le Christ. Vous n'avez besoin que de Jésus-Christ. Notre Seigneur a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Saint Jean, chapitre 11, verset 25. Il a aussi dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Saint Jean, chapitre 10, verset 10. Quand vous vous engagez pour Jésus-Christ, la vie est riche, elle est pleine, elle est excitante et fascinante, davantage que 36 000 francs ou euros à la banque cantonale. Peut-être que vous voulez consacrer entièrement votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que vous n'allez plus jamais pécher. Cela ne signifie pas que vous n'allez plus avoir de problèmes. Cela ne veut pas dire que vous n'allez plus échouer. Mais cela veut dire que vous avez pris un engagement qui vous gardera dans les temps difficiles. Ce dont je parle, c'est d'un engagement ferme et total envers Jésus-Christ, le maître de la moisson, pour être un ouvrier, une ouvrière dans ces champs de moisson. Et quand vous vous engagez envers Jésus-Christ, c'est lui qui vous dit ce que vous devez faire ensuite. Si vous êtes quelque peu perplexe, confus, incertain, et que vous n'avez pas cette paix profondément ancrée en vous, ni la stabilité dans votre vie chrétienne, alors j'aimerais vous dire que la raison en est peut-être un manque d'engagement total. Avez-vous entendu? C'est peut-être un manque d'engagement, corps, âme et esprit. À la lumière de ce que je viens de partager, vous avez peut-être le désir de vous engager rapidement ou radicalement envers Jésus-Christ dès maintenant. Bravo! Pourquoi ne pas lui dire maintenant que vous allez le servir pour le reste de votre vie et pour l'éternité? Pourquoi ne pas lui dire maintenant que votre vie est à sa disposition pour qu'il l'utilise pour sa gloire par le Saint-Esprit de la façon dont il veut? Si vous avez ce désir de vous engager pour le reste de votre vie envers Jésus-Christ, alors voici une prière pour vous. Oui, pour toi. S'il vous plaît, s'il te plaît, fais maintenant cette prière avec moi. Prions. Père, Dieu de l'univers, toi, notre Père céleste, Yahvé l'Éternel, dans le saint nom de Jésus-Christ, je t'aime. Et je te remercie parce que je veux me tenir devant toi comme un de tes enfants qui désire consacrer sa vie à Jésus-Christ. Seigneur, je prends possession par mon autorité de simple croyant en Jésus-Christ, et je me délie maintenant de tous les liens, de toute entrave, de tout ce qui pourrait m'empêcher de m'engager pour Jésus-Christ. Je me déclare libre dans le saint nom de Jésus-Christ et je me remets entre tes mains, Seigneur. Je me permets et je me mets à ta disposition. Tu es le Seigneur de la moisson, oui. Tu es la tête de toute chose dans l'Église qui est ton corps et dont nous sommes les membres. Seigneur, fais-moi voir à partir de maintenant que je suis sous ton contrôle et que tu vas me bénir, me fortifier et m'utiliser. Seigneur, je te prie pour la moisson. Tu as dit « Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers, des ouvrières dans son champ. » Seigneur, je prie que selon ta volonté, comme tu le juges bon dans chaque circonstance, dans chaque situation et besoin, tu m'envoies dans le champ de moisson pour être ton ouvrier, ton ouvrière. Seigneur, je te demande cela dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.